notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine à une question cruciale de notre histoire. En 1789, les États généraux ont-ils déclenché la Révolution française ? Nous tentons d'y répondre avec l'historien Pierre Cernat, spécialiste de la Révolution française. Alors que Louis XVI a convoqué les États généraux pour appeler ses sujets à trouver des solutions à la crise financière du royaume, ces États généraux ne vont-ils pas finalement se retourner contre celui qui les a convoqués dans une incroyable accélération de l'histoire ? En janvier 1789, la France est en effervescence. Le pouvoir royal organise les États généraux qui doivent se tenir à Versailles 4 mois plus tard. Dans tout le royaume, on ordonne aux 400 bailliages et sénéchaussés de faire élire les députés qui y siégeront et d'appeler les Français à rédiger des cahiers de doléances. Les trois ordres qui, dans la tradition féodale, constituent la société seront représentés. La noblesse, le clergé et le tiers-état, c'est-à-dire 98% de la population. Sa Majesté désire, je cite, que des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à elle ses vœux et réclamations.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.
Pour une fois que le roi lui demande son avis, le peuple ne se fait pas prier. Sont concernés les hommes de plus de 25 ans. On estime qu'en mars 1789, chaque dimanche, qui est le jour de la messe, celui où en principe on ne travaille pas, près de 80% des hommes adultes se rendent à l'église de leur paroisse ou au château de leur seigneur pour participer à la rédaction de ces cahiers. Alors que la majorité du tiers-état est illettrée, dans les auberges, dans les églises, les maisons de ville, partout, on se met à discuter, on écrit, on dicte, on vote. Cette libération soudaine de la parole est déjà en soi une révolution dans les esprits et dans les mœurs.
Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins, pour les beaux yeux du maître.
Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies?
C'est ça, oui.
Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre.
C'est vrai, c'est vrai.
Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire.
Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés?
Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier?
Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques.
Au total, dans toutes les régions de France, pendant tout le mois de mars, 60 000 cahiers de doléances seront rédigés, puis emportés précieusement à Versailles par les députés qui les déposeront au pied du roi à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Pierre Cernat, qu'est-ce que ces 60 000 cahiers de doléances nous disent des Français de 1789 ? Un grand désir de changement ?
D'abord et avant tout pour l'historien, une photographie unique sur le royaume, c'est en fait une formidable radioscopie de la France. Le roi demande à son peuple ce qu'il désire. Et donc à partir de ce moment-là, il y a en fait une formidable démocratisation, c'est-à-dire démultiplication de la parole, donc qui est importante. 60 000 cahiers au moins. Car vous avez évoqué les 400 bailliages et sénéchaussés, mais en deçà, il y a toutes les paroisses. Donc on a en fait dans pratiquement toutes les paroisses de France, et au-delà, qu'on songe aux ordres réguliers du royaume, mais également dans les colonies. Ne l'oublions pas, dans les colonies, en Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, on va rédiger également des cahiers. Mais rédiger des cahiers veut dire donc que l'on va prendre la parole, pose la question des transcripteurs, on le voit très bien dans cet extrait que vous avez passé, un médecin s'exprime, donc il y a ceux qui vont rédiger,
bien sûr. Les prêtres aussi.
Les prêtres aussi, les notaires, les avocats. Donc en fait, on a une libération de la parole, mais avec cette libération, libération de la parole, on a bien sûr des exigences. Et ces exigences, on peut les classer autour de quelques thèmes qui structurent l'ensemble de ces cahiers. Bien évidemment, on l'a entendu, la justice fiscale. Mais qui dit justice fiscale dit immédiatement la souveraineté. C'est-à-dire que, très vite, qui va avoir le pouvoir ? C'est-à-dire la Chambre des députés qui sont députés par la nation, qui sont des représentants de la nation, et qui vont apporter, chacun dans leur ordre, 12 cahiers, dont un seul sera rédigé, on l'a perdu, bienheureux l'historienne ou l'historien qui le retrouvera, qui est déposé au pied du roi. L'égalité fiscale. Ils veulent l'égalité économique aussi, la liberté d'entreprendre. Ils veulent la liberté de croire et de s'exprimer. Ils veulent une justice... Oui, bien sûr.
C'est-à-dire ?
Mais bien sûr, on a oublié que nos compatriotes protestants n'ont pas le droit d'exercer leur culte. Il y a un édit de tolérance, mais cet édit de tolérance est très minime. Ne parlons pas de la condition des compatriotes juifs à ce moment-là dans le royaume. Et avec tout cela, le mot-clé est lancé. La constitution. Les cahiers demandent une constitution. Et cela est déjà un acte révolutionnaire en soi.
Même
et...
les plus pauvres demandent ça ?
Oui, c'est son
d'imaginer... À leur manière.
À leur manière, c'est
dans
son
leur
d'imaginer
mot.
Qu'il y a une haute politique et une sous-politique. Ce sont deux expressions qui m'horripilent, si vous me permettez, cet avis subjectif, là où l'historien devrait rester neutre. Je pense que lorsque les paysans de Bretagne, de Saint-Glain-Pinguilly, dans les Côtes d'Armor, écrivent au roi « Demandons que les laboureurs irètent au moulin ou bonnes leur semblerettes », cela veut bien dire, de façon tout à fait explicite, qu'il réclame la liberté. Alors, c'est écrit dans un français épouvantable du point de vue orthographique.
Mais non, c'est joli.
Mais oui, c'est d'abord joli, mais c'est surtout qu'ils expriment la volonté d'aller labourer, c'est-à-dire gagner leur vie là où ils le désirent, se libérer de toutes les contraintes, se libérer de tous les interdits qu'on leur oppose. Et ne parlons pas, ce n'est peut-être pas politiquement correct aujourd'hui, mais c'est la vérité en 1789, de cette majorité de paysans qui demandent à chasser. Ils demandent que ce privilège des nobles soit aboli et leur revienne. Donc, on a une véritable demande, non seulement de prise en compte de ce qui est l'amélioration du quotidien, mais aussi et surtout, donc, une perspective d'avenir avec la transformation politique du royaume et la rédaction de la Constitution, quel que soit le respect par ailleurs affiché à la personne du roi.
Oui, justement, je voulais vous demander, Pierre Cernat, comment les Français s'adressent-ils à leur souverain respect, amour, impatience ? Est-ce qu'ils mettent en cause déjà la légitimité de la monarchie ? Ou c'est le bon roi encore ?
Le roi a établi, au risque de faire dresser vos cheveux sur votre tête, un bon plan com' durant l'hiver 1789. La France traverse, après 1710, un des hivers les plus terribles qu'elle ait connu. On meurt de froid, on meurt de faim, et Louis XVI va, par sa générosité, comme une grande partie du clergé, il faut le dire, subvenir à la misère qui frappe à sa porte, à Versailles, qui frappe l'ensemble des plaines de France, et plus particulièrement celle du bassin parisien. Donc l'image du roi est très positive à ce moment-là. C'est le seul roi victorieux de tout le XVIIIe siècle. On avait évoqué la guerre des États-Unis, c'est le seul qui a remporté une victoire. Bon, manifestement, ça ne lui a pas porté bonheur. Donc l'image du roi est intacte, et c'est avec cette image-là, auréolée, roi bienfaisant, roi père de ses peuples, que le roi s'avance vers les États généraux, donc, et les cahiers montrent un réel respect pour sa personne. Nul ne s'aviserait à critiquer le roi qui vient de rendre la parole aux Français.
Et quand les députés arrivent pour l'ouverture des États généraux, ils ont participé à la rédaction de ces cahiers d'oléances, ils en ont lu tous les textes, ils sont chargés de tous ces messages que leur ont donné les Français ?
Ils savent quelles sont les attentes des Français. Et ils savent qu'ils doivent porter un message, deux messages. Un est déjà victorieux, le doublement du nombre des députés du tiers-État par rapport aux députés des deux premiers ordres. Deuxièmement, ce sera la bataille du mois de mai et du mois de juin 1789, le vote par tête, qui est essentiel.
Merci Pierre Cernat. Dans le prochain épisode, nous raconterons justement l'ouverture, le 5 mai 1789 à Versailles, des États généraux dans le faste de l'Ancien Régime.